Et bonjour à tous, auditeurs du massif de la Chartreuse, bienvenue sur cette nouvelle émission des rivières et des hommes, l'émission mensuelle de l'APPMA des pêcheurs du Hoguier, avec nos joyeux drilles que sont Marcel Guita, président de l'APPMA. Bonjour Marcel.
Bonjour Sophie, bonjour chers auditeurs. Mais aujourd'hui c'est un président inquiet qui va vous parler.
Bon, on verra inquiet sur quoi tout à l'heure. Et Gilles Rondeau, notre garde-pêche...
préféré.
En chef, allais-je dire. Mais préféré, si tu veux, il n'y a pas de souci. Bonjour Gilles.
Bonjour Sophie, bonjour à tous.
Alors, dans les sujets que nous avons prévu d'aborder aujourd'hui, on va attaquer vraiment très fort avec la pollution du gué, Marcel.
Oui Sophie, bon, donc début avril... Les premiers jours d'avril, on a commencé donc nos analyses physico-chimiques, analyses que nous avons faites au niveau, donc de, j'irais juste à l'amont de Saint-Laurent-du-Pont. Et là, on a constaté une pollution très importante au phosphate. Pollution.
On peut rappeler, Marcel, ce que c'est que le phosphate?
Les phosphates, c'est des rejets qu'on trouve, que tout organisme comme le nôtre rejette. C'est des qu'on trouve dans les lisiers, qu'on trouve dans les engrais. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle des matières organiques classiques. Voilà. Donc on a trouvé une pollution qui est 13 fois supérieure à ce qu'elle devrait être dans une rivière telle que le Guémor, dans un massif qui est karstique. Hein, donc c'est très inquiétant. Le reste, que ce soit le taux d'oxygène, que ce soit les nitrates, que ce soit tous les indicateurs sont positifs. Mais le phosphate, j'avais déjà relevé ça l'année passée. On avait dépassé un moment donné de 10 fois la limite, et là on est à 13 fois.
Alors est-ce qu'on peut juste éviter la langue de bois et préciser très clairement quelles sont les sources de pollution au phosphate
Ce sont des rejets directs qui ne passent pas par une station d'épuration, ça peut être des rejets de fosse septique, ça peut être des rejets liés à l'épandage du lisier,
qui s'infiltre dans la terre.
Voilà, exactement, qui va directement à la rivière. C'est ça qui est. Alors notre souci, c'est ce qu'on veut faire, c'est de localiser où se trouvent ces rejets de phosphate. Alors bien sûr, si ce sont des rejets agricoles, ce sera diffus, mais si ce sont des rejets qui sont dus à l'activité, je dirais à l'activité humaine, on arrivera à les localiser. Voilà. Donc samedi, là, on s'est donné rendez-vous. On va faire une analyse.
Samedi qui vient.
Le samedi qui vient.
Le
24 avril. On s'est donné rendez-vous donc juste à la sortie donc de Saint-Laurent-du-Pont en direction de la route de Saint-Pierre-Chartreuse à la hauteur du petit chalet de Monsieur Jean-Luc Billon. Voilà. Donc là, on fera une analyse totale avec tous les paramètres qu'on a l'habitude de faire, l'oxygène, que ce soit l'ammonium, que ce soit les nitrates, nitrites, etc., les phosphates. Et puis après, on va remonter le cours d'eau, les différents cours d'eau, parce qu'il y a des affluents. Et là, on fera juste les phosphates. Et ça nous permettra de voir d'où vient cette pollution. Parce qu'elle ne vient pas forcément de la station d'épuration de Saint-Pierre-Chartreuse. Voilà. Donc on aura une analyse beaucoup plus fine.
Alors l'analyse, beaucoup plus fine, d'accord, mais elle est déjà assez circonstanciée, puisque tu disais tout à l'heure hors micro que c'était en dessous d'un certain seuil, et enfin c'est vraiment un bout de rivière qui est bien identifié,
oui, mais bon,
c'est pas sur toute la longueur.
Effectivement, si on fait une analyse au seuil de la laiterie, à Perclin, au seuil de la laiterie, donc en amont de Saint-Pierre-Chartreuse, là, on a zéro polluant. On n'a pas de nitrate, on n'a pas de phosphate. Après, effectivement, je me souviens, la labellisation rivière sauvage, c'était le 27 juillet 2019, et j'ai fait les analyses physico-chimiques sur le corbeiller, le ruisseau du corbeiller. Et là, effectivement, j'avais trouvé un excès de phosphate. Voilà. Donc c'est pour ça, maintenant, il faut approfondir et puis bien déterminer les lieux qui sont susceptibles de de polluer notre gué. Voilà.
Il peut y avoir des rejets humains, sauvages, des tuyaux d'évacuation, des choses comme ça.
Tout est possible.
On n'en a pas repéré, nous.
Tout est possible. Hein, voilà. Mais on va commencer comme ça.
Tuyaux d'évacuation, tu penses à des fosses septiques?
Fosses septiques, voilà.
Sauvages.
Tout simplement, oui.
D'accord.
Oui, ou des tuyaux enterrés, ça arrive encore. Hein.
D'accord. Bien.
Même que tout à l'égout.
Alors après, on a aussi les pollutions chimiques pour veiller justement au grain sur ces pollutions chimiques et faire des analyses plus fines. Il y a une action qui est prévue
tout à fait, oui, printemps. Voilà, je me suis mis en relation avec le laboratoire Biomae, qui est lui, donc ses analyses, il les fait à l'aide de gamars, ce qu'on appelle les petites crevettes d'eau douce. Il les élève donc dans des bassins qui sont totalement exempts de toute pollution. Après, ces petites crevettes d'eau douce, il les met en cage et on les dépose dans la rivière. Et ça permet, donc après, les gamars ont un cycle de reproduction très court. Donc donc après, ils sont de nouveau prélevés et ils sont analysés en laboratoire. Ça va nous permettre d'avoir de voir quels sont les polluants qui sont contenus dans ces gamars. Donc ces polluants, ça peut être des polluants chimiques, ça peut être des polluants dus aux produits phytosanitaires, ça peut être aussi tout ce qui est produits médicamenteux. On sait que depuis à peu près 60 ans, à cause de la pilule, eh bien, que les poissons se féminisent au détriment des mâles, etc. Donc on aura une analyse très fine de tous ces polluants, ce qu'on appelle les micropolluants, ce qu'on appelle les polluants organiques persistants, tels que les hydrocarbures, etc. Donc là, on aura une analyse très fine. Donc, cette analyse, on va la faire à la sortie des gorges du Guémort. On va la faire à l'aval des établissements parturbes, parce que c'est en fonction de la pollution qu'on avait eue l'année passée au 3 août, je crois, qu'on a entrepris, que nous, les membres de la PPMA, ont entrepris cette démarche. Et puis on en fera une autre aussi à l'aval du Guévif, juste avant sa confluence. Parce qu'effectivement, on a fait aussi des analyses là, en début du mois physico-chimiques. On s'est aperçu quand même qu'il y a une pollution assez importante au phosphate. Mais cette pollution au phosphate, elle peut être due au rejet de la pisciculture. Elle peut être due... On sait que les stations d'épuration des entremonts ne sont pas très performantes. Oui. Donc là aussi. Mais on va d'abord rechercher les phosphates sur le Guémort, d'où proviennent ces phosphates.
Vous allez procéder par élimination.
Voilà. Après, on ira voir du côté du Guévif. Voilà, parce que, en fait, voilà.
Bien. Et alors, un dernier chapitre, ou un dernier point à ce chapitre sur la pollution, plus exactement. Où est-ce que vous en êtes avec, justement, la pollution dont vous parliez tout à l'heure, sur celle qui a eu lieu sur le Guémort, en aval de Paturle? À cause d'un déversement imprévu, malheureusement, l'été dernier.
Oui, c'est un déversement fait d'huile de laminage. Donc l'huile de laminage qui est quand même chargée au niveau... elle sert à laminer, donc elle doit être chargée de particules ferriques, ou peu importe. Et donc, comme on n'a pas trop de réponses, donc la PPMA s'est portée partie civile. Hein, pour qu'on ait une réponse claire, tous les questionnements que nous nous posons aient une réponse. Voilà, ça pour nous c'est important. Donc c'est pour ça qu'on s'est porté partie civile. Voilà.
D'accord. Bon, et bien suite au prochain numéro, on verra ce que ça
Merci.
Donne. Enfin, bien que beaucoup de procès en ce moment soient retardés du fait du Covid, en plus de la réforme. De la machine judiciaire. On va se faire une première pause avec les morceaux proposés par Marcel et avec Françoise Hardy, Tant de belles choses.
Même s'il me faut lâcher ta main. Te dira demain, rien ne défera jamais nos liens, même s'il me faut aller plus loin, couper des ponts, changer de train. L'amour est plus fort que le L'amour qui fait battre nos cœurs va sublimer cette douleur, transformer le plomb en or. Tu as tant de belles choses à vivre encore. Tu verras au bout du tunnel se dessiner un arc-en-ciel. Fleurir les lilas, tu as tant de belles choses devant toi. se cache le plus grand des mystères. Comme la brume voilant l'aurore, il y a tant de belles choses que tu ignores. La foi qui a pas les montagnes, la source blanche dans ton âme. Cache le plus beau des mystères. Pense-y quand tu t'endors. L'amour est plus fort que la mort.
Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez actuellement sur les ondes de Radio Couleur Chartreuse dans cette nouvelle émission du mois d'avril des rivières et des hommes, l'émission de l'Association des pêcheurs du Hoguier, la PPMA des pêcheurs du Hoguier. Avec nos joyeux drilles que sont Marcel Guitta, président de la PPMA, et Gilles Rondeau, garde-pêche. Alors justement, pour parler de ce métier de garde-pêche, on va commencer par écouter une interview qui a été réalisée par des jeunes auprès d'un garde-pêche, c'est ça Gilles, monsieur oui. Malaveau.
Oui, hein? Tout à fait.
Allez, on écoute.
Garde-pêche du Doubs.
Du Doubs.
Bonjour, pouvez-vous vous présenter ?
Je m'appelle Patrice Malaveau, je suis garde-pêche sur le Doubs franco-suisse. C'est l'association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques sur le Doubs entre le pont de la Race et jusqu'à ce que le Doubs rentre complètement en Suisse, 8 km plus bas que Goumois.
Est-ce que vous aimez votre métier ?
J'adore pas seulement la pêche, mais la nature en général et plus particulièrement les milieux aquatiques. Donc si on n'est pas passionné, il faut laisser la place à d'autres.
En quoi consiste votre métier ?
Alors ça consiste à surveiller l'exercice de la pêche, que les pêcheurs respectent bien les règlements, mais tout autour de ça, il y a tout le volet protection de l'environnement. Il faut être très attentif à ce que tout aille bien et signaler toute chose qui nous paraît pas normale.
Dans quel état sont nos rivières ?
Alors malheureusement, nos rivières, d'une manière générale en France, même dans le monde, ça va un petit peu de pire en pire. Et nos rivières en Franche-Comté, même si on a une très belle région, on a pas mal de sources de pollution et surtout on a une géologie de nos sous-sols, ce fameux karst, qui draine des plateaux à la rivière directement et c'est un apport de pollution très important.
Quels sont les problèmes majeurs ?
Ben, on a deux grandes causes. Hein. On a l'agriculture avec principalement l'intensification de la filière comtée. Une agriculture intensive dans des paysages aussi sensibles que les nôtres, ça pose problème, notamment tout ce qui est épandage et engrais. Et après, il y a toute la partie assainissement aussi. Hein. On a quand même une région qui est à la fois sauvage, mais à la fois pas mal urbanisée. Il y a quand même beaucoup de villages, ils sont très serrés entre eux. Il y a de plus en plus d'habitants, donc de plus en plus de nouvelles constructions et pas des systèmes d'assainissement qui permettent de gérer suffisamment.
Comment se porte la biodiversité ?
Alors malheureusement, ça va avec l'état des rivières. Hein. Si on parle de rivières qui se dégradent, ben on parle aussi d'une biodiversité qui se dégrade. Alors c'est pas que les poissons, il y a aussi toute la chaîne alimentaire qui aboutit aux poissons. Là, dans la rivière, il y a beaucoup plus d'insectes aquatiques, parce que le plus gros réservoir de biodiversité, il se situe justement chez les invertébrés. Plein de petites bestioles qui grouillent au fond, entre les cailloux. Une partie de la vie commence dans l'eau, et après c'est des animaux qui émergent, qui éclosent, qui deviennent un animal volant. Ils ont quelques heures de vie comme ça, avant de mourir. Le plus connu, on pourrait vous citer la libellule. C'est ce principe-là. Je crois que les libellules, elles vivent assez longtemps, mais il y en a, ils vivent quelques heures, ils pondent à ce moment-là, et après ils meurent. On a certaines espèces d'invertébrés qui ont disparu depuis 20-30 ans déjà, puisqu'elles n'étaient plus capables de supporter la qualité d'eau qu'on leur offre. Et donc si la situation s'aggrave encore plus, là c'est plus visible, c'est certaines espèces de poissons qui vont diminuer et peut-être même disparaître. Les espèces qu'on essaye de le plus préserver, c'est les truites et les ombres. C'est un petit peu ceux qui sont en bout de chaîne alimentaire, donc si les pêcheurs en prélèvent trop par rapport à ce que la nature est capable de produire, on va plus en avoir. Si vraiment les conditions environnementales se dégradent, c'est pas la pêche qui les fera disparaître, c'est simplement le milieu. on a des poissons encore plus sensibles, qui sont moins connus, c'est par exemple les approns. Donc il y en avait dans le Doubs, et aujourd'hui on considère qu'il a pratiquement disparu du Doubs. Et parallèlement à ça, quand il y a des espèces qui disparaissent, d'autres moins sensibles prennent la place. Donc là, on s'est aperçu très récemment là, qu'on a fait des pêches électriques pour les compter. Ça existe depuis les années 60. Il y a des études qui sont faites sur les rivières, et pour connaître l'état d'une population à un endroit donné, en appliquant toujours bien sûr le même protocole, la même longueur de rivière pêchée et tout, on prend tous les poissons, toutes les espèces, on compte tout, on pèse tout, on inventorie tout, et ça nous permet, si on fait ça tous les 10 ans ou tous les 5 ans, on est capable de connaître l'évolution des populations de poissons. Et là, on s'est aperçu, lors de la dernière campagne de pêche électrique qui date du mois de septembre, il y avait plus de poissons au total, mais il y avait moins de truites. Donc ça veut dire que les truites qui sont un peu plus sensibles, bah, elles vont moins bien. Par contre, la place qu'elles laissent, elle est remplacée par des poissons qui sont moins sensibles. C'est vraiment une atteinte à la biodiversité.
Est-ce que vous avez des choses à dire à nos auditeurs ?
Qui passent le plus de temps possible au bord d'une rivière. C'est une super belle école de la nature. Il faut savoir bien l'observer, mais en la touchant un minimum, ça peut déjà apprendre beaucoup de choses.
Merci.
Merci à vous.
Génération Avenir.
Mèche.
Saint-Hippolyte.
La web radio des jeunes reporters aventuriers de demain.
Bravo pour cette jolie interview des jeunes reporters aventuriers de demain et bravo pour ce garde-pêche amoureux de la nature et de la rivière. Alors Gilles, pour rebondir précisément sur le métier de garde et son évolution, qu'est-ce que vous avez à nous dire ?
Je crois qu'il a... Pardon. Je pense qu'il a, tout à fait résumé quel était le, on va dire le métier entre guillemets, parce que la plupart des gardes-pêche sont bénévoles. C'est comme il le dit, c'est un sacerdoce. Si on n'aime pas ça, ben on fait autre chose. Et il faut passer énormément de temps au bord de l'eau pour pas seulement contrôler. Je pense que la plupart des pêcheurs qui se font contrôler pensent que on est là pour les verbaliser ou pour les sanctionner ou pour leur reprocher leur façon de faire. Il n'y a pas que ça. Effectivement, il faut être titulaire d'un permis. Il faut respecter la réglementation que la PPMA a instaurée, qui vient souvent aussi du préfet. C'est pas nous qui prenons toutes les décisions. On ne fait pas ce qu'on veut. Mais bon, pour en revenir au métier de garde-pêche, c'est vraiment tous les jours au bord de l'eau pour surveiller à la fois les pêcheurs, effectivement, mais aussi toutes les pollutions, l'environnement, tout ce qui peut détraquer une rivière et essayer de la maintenir dans le meilleur état possible. Je pense que l'eau est, j'allais dire, l'avenir de l'homme. Ça m'appelle une chanson, ça. L'eau devient un produit rare qu'il va falloir protéger. C'est pour ça qu'on est autant attaché à nos bassins versants entre Saint-Pierre-de-Chartreuse et Saint-Laurent-du-Pont, puisque théoriquement, il ne devrait y avoir aucune pollution, aucune atteinte, de façon à garder un milieu propre dans lequel le poisson vit et se reproduit naturellement, sans que l'homme ait besoin de toucher quoi que ce soit, parce que le gros problème, c'est bien l'homme au départ.
Encore et toujours l'homme.
Et toujours. Et que ben, chaque fois qu'on veut dénaturer, transformer, améliorer, bidouiller en quelque sorte, et ben, on obtient souvent l'effet inverse. Alors ce métier de garde-pêche a beaucoup évolué. Hein. C'est ce que je te disais tout à l'heure, on n'est plus à l'époque de Funès qui tapait du pied pour faire venir les poissons avec un type qui guettait derrière les fourrés pour le contrôler. C'est pas ça, on fait beaucoup de prévention. Bon, quelquefois il se passe des choses un peu spéciales dont on parlera plus tard. Voilà.
D'accord. Alors, oui, vous avez aussi une fonction de conseil hein, auprès des gens que vous rencontrez au bord de la rivière, j'imagine.
Oui, ben, autant que faire se peut. Bon, déjà, pour les pêcheurs, on explique pourquoi on préfère ou on recommande... Alors, on va être très précis là-dessus, parce que la dernière fois, on a fini l'émission avec Marcel un peu...
Ah oui, sur un point particulier concernant les panneaux.
Concernant les panneaux, c'est un peu...
qui ont été posés.
Mais c'était amical, il hein, n'y a rien, mais c'est normal, on est passionné, donc on se branche, on monte rapidement dans les tours. En fait, on avait fait faire des panneaux pour les parties no-kill, donc qui sont des parties de graciation, dans lesquelles on remet les poissons à l'eau. Marcel a fait faire des panneaux en nous consultant et en nous disant « ça vous va ?» On avait répondu oui, en lisant mal sûrement, parce que sur ces panneaux à l'intérieur des no-kill, il était mis « nous recommandons l'utilisation d'un hameçon sans ardillon » et en dessous « hameçon sans ardillon obligatoire ». Or, moi, notre problème de garde-pêche, on est quatre à contrôler, c'est que on ne peut pas être flou sur les termes, parce que quand un...
Les gens en profitent.
Il y a certains pêcheurs qui, on va dire... Heureusement, c'est pour la majorité. Hein, il y a une très petite minorité qui va contester le moindre détail au niveau légal. Et si on met que c'est recommandé et en bas obligatoire, le gars va me dire, attendez, vous recommandez. Moi, j'ai lu recommander, je ne suis pas obligé de l'utiliser, donc... Donc on s'est mis d'accord et pour l'année prochaine, on fera refaire des panneaux très précis. Il faut pour la garderie que les panneaux d'interdiction soient rouges absolument, parce que la plupart des gens ne voient rien. Les panneaux de recommandation peuvent être verts. En revanche, on peut très bien aussi mettre recommandé d'utiliser un ardillon dans les parties non no-kill, où on peut prélever du poisson. Pourquoi ? Parce qu'utiliser un hameçon à ardillon, c'est-à-dire avec un petit crochet qui fait tout pour retirer le poiscaille, quand on prend une truite de 20 cm qu'elle a avalé l'hameçon avec un crochet au fond de la gorge, c'est très difficile de l'enlever, déjà en temps normal, mais en plus, s'il y a un ardillon, on met une demi-heure pour la décrocher.
Et on l'écharpe au passage.
Et le gars dit, moi je l'ai remise à l'eau, hein, mais elle meurt dans l'heure qui suit.
Oui.
Si elle n'est pas morte de ses blessures, elle va mourir de maladie parce qu'on l'aura trop serré, trop.
Charcuté.
Trop charcuté, voilà, tout simplement.
D'accord.
Voilà.
Ok, merci sur cette mise au point. Et puis vous avez donc une anecdote à nous raconter.
J'ai une anecdote concernant la garderie.
Oui, je crois.
C'est celle dont on voulait parler à la fin.
Oui, mais
bon. On peut en parler maintenant.
Ouais, je crois.
On enchaîne, t'as raison. Simplement, il y a eu un événement qui s'est passé la semaine dernière avec un ami garde-pêche. Je vais évidemment taire les noms des deux protagonistes. Mais disons qu'il y a eu une altercation. Pour quelle raison, j'en sais rien, je n'ai pas entendu. En revanche, ce que j'ai bien
entendu... Entre qui et qui ?
Entre le garde-pêche et un pêcheur.
D'accord.
Ok. Je ne sais pas du tout comment ça a démarré. Ce que je sais, c'est que quand mon ami garde-pêche a mis un enregistrement en place avec son téléphone, j'ai tout entendu. Et là, il y a eu clairement des menaces de mort. Donc, des menaces, je vous passe les termes. C'était « menace, je te fracasse la tête avec une pierre ». Je te jetterai à l'eau, je vais te noyer. C'est allé beaucoup plus loin que ça et j'irai pas plus loin. Il s'en est suivi une discussion d'une demi-heure pendant laquelle j'ai tout entendu. Et puis mon ami a amené le pêcheur en question jusqu'à mon appartement, jusqu'à chez moi, pour essayer de calmer le jeu. La personne en question, le pêcheur, un peu énervé, on va dire beaucoup même, s'était tout à fait calmé. Ça s'est terminé comme ça. On a essayé de le raisonner, mais il était déjà très calme, pas du tout comme il était au bord de l'eau. Donc, ce genre d'incident arrive peu souvent, mais est déjà arrivé plusieurs fois. Alors, ça peut venir du garde aussi, qui peut être des fois... On doit rester tout à fait correct. Bonjour, merci, pouvez-vous me présenter, etc.
Respectueux.
Etc. Respectueux de la personne. Et surtout, ne pas l'insulter. Je ne pense pas que c'est ce qui a été fait. Pas du tout. Je ne sais pas du tout pourquoi ils en sont arrivés là. Toujours est-il que ce genre de truc, moi, je ne passerai jamais dessus. Pourquoi ? Parce que si on ne passe notre temps qu'à contrôler le petit papy qui vient avec son gamin et qui a oublié son permis de pêche et qu'on verbalise celui-là et qu'on ne sanctionne pas un gars comme ça qui est capable de franchir des limites, c'est pas la peine de faire de la garderie. Donc, personnellement, si ça m'arrivait, je ne discute même pas, je vais à la gendarmerie, je dépose une main courante. Voilà, c'était juste ce que je voulais dire.
Un petit aparté, anecdote aparté. Très bien. On se refait une pause sur cette anecdote avec Georges Brassens, La mauvaise réputation.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets, ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots, ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux, poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire? Le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde se rue sur moi, sauf les cul-de-jatte, ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.
Et bienvenue à vous tous qui nous rejoignez sur les ondes de Radio Couleur Chartreuse dans notre émission des rivières et des hommes, une fois par mois, donc celle du mois d'avril, en compagnie de Marcel Guitta et Gilles Rondeau. Alors juste avant la mauvaise réputation, Gilles était parti à nous expliquer le métier de garde et à faire un point sur les hameçons. On va revenir là-dessus. Moi, je tenais juste sur l'anecdote qu'il a racontée. J'espère que le monsieur qui a dérapé, comme ça nous a été décrit, et encore avec beaucoup de modération devant le micro, parce que hors micro, c'était moins sympa que ça. Ce monsieur est allé beaucoup plus loin que ce que Gilles nous a raconté. J'espère qu'il a bien remis les deux pieds dans ses chaussures et qu'il s'est gardé, raison par rapport... par rapport à ce qui s'est passé, parce que c'est complètement renversant quand même. Alors du coup, Gilles était tellement sous l'émotion qu'il s'est un peu mélangé les pinceaux dans ce qu'il a dit. On va corriger.
Ils sont quand même quittés en bon terme, hein, je tiens à le dire. Hein. Ils se sont serrés la main quand ils sont venus chez moi.
Bon, c'est bien.
Bon, voilà, on efface. OK. Bon, je vous ai dit une grosse connerie donc, tout à l'heure. Je vous ai dit hameçon avec ardillon obligatoire. C'est exactement le contraire de ce que je voulais dire. En fait, c'est hameçon sans ardillon obligatoire. Voilà. C'est quand même pas la même chose, heureusement. Mais Marcel, t'aurais dû me taper, là.
Ouais, mais tu dis que c'est moi qui dis des bêtises, donc je te laisse faire. Hein.
Moi, je t'ai rien dit.
Allez, jeu de main, jeu de vilain. On va enchaîner avec Marcel, qui a rencontré, il y a peu de temps, la maire de Saint-Joseph-de-Rivière, Madame Guy Jarreau, sur plusieurs sujets qui ont été évoqués. La ressource en eau, le changement climatique et l'adresse des riverains par rapport aux bottes de pêche.
Voilà, donc mardi dernier, je crois, Madame Guy Jarreau nous a reçus avec Adrien Berthelieu, qui est donc le président Réciprocité Guier et qui est président aussi de la Gaule du Guier. Voilà. Et je dois dire que l'échange s'est fait en toute confiance, comme sur les sujets que tu viens de citer, hein, c'est des sujets qui nous préoccupent. La ressource en eau, pourquoi la ressource en eau? Parce que à Saint-Joseph-de-Rivière, le pays voironnais pompe dans la nappe phréatique à 90 mètres de fond. Et il a été entendu, enfin on nous a dit, qu'il comptait prélever davantage en quantité en mètres cubes. Donc notre première question, c'était de demander donc à Madame Guy Jarreau ce qu'il en était. Alors bon, Madame Guy Jarreau est nouvellement élue. Elle a subi la période du confinement. Donc pour elle, c'était pas facile. Elle avait d'autres sujets. Donc elle nous a promis qu'elle se renseignerait. Je sais qu'elle nous a expliqué que sur la quantité prélevée, Saint-Joseph-de-Rivière disposait de 8% sur cette quantité.
Donc, d'être grand-chose, mais bon.
Non, mais bon, Madame Guijarreau nous a promis qu'elle... Parce qu'en fait, on ne connaît pas du tout les volumes prélevés.
Oui.
Donc dans un premier temps, on lui a demandé de se renseigner. Elle nous a promis qu'elle allait se renseigner sur les volumes d'eau prélevés. Et sur cette intention d'augmenter le prélèvement. Alors ça, c'est quand même très, très, très important. Après, nous, c'est vrai qu'elle est comme nous. Elle a le désir de conserver un environnement viable pour les jeunes, les générations à venir. Ça, c'est, de toute façon, elle est tout à fait... Elle pense la même chose que nous sur les ressources en eau, sur la pollution, sur la biodiversité. Et puis, très gentiment, moi, j'avais établi une liste de personnes qui étaient propriétaires riverains. Cette liste de personnes m'avait été donnée par Jean Thibault, notre vice-président et ancien président, depuis plus de 30 ans. Donc, elle m'a très gentiment photocopié la liste de ces personnes pour qu'on puisse avoir toutes les adresses. Donc, dans un premier temps, dès qu'on aura les adresses, on pourra, en fait, valider les baux de pêche.
Renégocier ou valider.
Sur Saint-Joseph-de-Rivière. Alors, j'en profite pour dire qu'on a fini l'inventaire. On est monté jusqu'au col de Pommier-la-Placette.
Il arrive à le dire maintenant, il le cherchait les dernières émissions. Je ne sais plus les noms qu'il nous avait sortis, mais on n'était pas du tout à Pommier-la-Placette.
Voilà, non, mais en fait, j'avais fait exprès. Hein, c'était pour...
pour vérifier notre connaissance du massif de la Chartreuse.
Exactement. Donc, en fait, on a trouvé un ruisseau qui est très beau. Le maire d'Arrée.
Contrairement à ce qu'indique son nom.
il y a son affluent qui est le Chauroland, qui est très beau, qui peut faire. Je pense qu'on a des possibilités de frayères. On a d'autres, un petit affluent dont j'ai oublié le nom, qui aussi qui a beaucoup de possibilités pour que les poissons ombres et truites puissent se reproduire.
Alors, on précise quand même que la PPMA des pêcheurs du Hoguier, du coup, intervient sur cette partie-là du territoire parce qu'il n'y a plus d'APPMA locale.
Oui, la PPMA locale, alors je ne sais pas, je crois qu'ils ont, démissionné. Donc, il y a un papier qui existe, qui a été fait par la PPMA, l'ancienne APPMA de Saint-Joseph-de-Rivière, comme quoi elle nous cédait les baux de pêche.
OK.
Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'instant, il n'y avait que des baux de pêche. C'était que, je dirais, verbal.
Il n'y avait rien d'écrit. Comme ça se faisait
alors,
avant.
Alors, nous, on va essayer d'avoir des baux écrits pour qu'on puisse entreprendre certaines démarches de protection de l'environnement, de protection des poissons, etc. Voilà. Donc, et puis, on a promis, parce que à Madame Guijarrot, qu'elle pouvait compter sur nous pour tout ce qui était des activités en lien avec la pêche et la connaissance du milieu aquatique. Voilà, donc elle était très contente. Et bon, nous avons eu beaucoup de plaisir à converser avec Madame la maire. Voilà, donc on s'est donné rendez-vous. Donc c'était un échange, je dirais, qui était...
Fructueux.
Des beaux verbaux, c'est vrai que c'est pas évident à dire.
Il y a toujours le mot pour rire, ce Gilles.
Un beau verbal, un bail verbal, des beaux verbaux, c'est ça ?
Des beaux écrits, c'est mieux.
C'est plus facile.
Allez, une petite pause musicale avec Françoise Hardy, Le Large.
Une histoire banale gravée dans ma mémoire. Aucun bateau pirate ne prendra le pouvoir. Aucune étoile filante me laissera dans le noir. Aucun trac, aucun. Et demain, tout ira bien, tout sera loin. Là au final, quand je prendrai le large, tout sera loin. Donne-moi la main. Là au final, quand je prendrai le large, aucune larme, aucune ne viendra m'étrangler. Aucun nuage de brume dans mes yeux délavés. Sable ni la dune n'arrête le sablier. Aucun quartier de lune, aucun. Et demain, tout ira bien, tout sera loin. Là au final, quand je prendrai le large, tout sera loin. Donne-moi la main. Là au final, le large. Aucun autre décor, aucun autre que toi. Aucune clé à bord, aucune chance pour moi. Et demain, tout ira bien. Tout sera loin, là au final, qu'une langue de bois. Aucun chaos, aucun, aucun. Et demain, tout ira bien, tout sera loin. Là au final, quand je prendrai de l'âge, tout sera loin. Donne-moi la main, là au final, quand je prendrai le large.
Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez sur les ondes de Radio Couleur Chartreuse dans l'émission du mois d'avril de ce printemps des rivières et des hommes en compagnie de nos joyeux drilles que sont Marcel Guitta et Gilles Rondeau qui continuent à faire le pitre de l'autre côté du micro. C'est dommage que vous ne voyez pas, ça vaut le détour.
C'est le côté joyeux drille qui me... voilà.
T'aimes bien joyeux drille ?
Non. Non ?
Ouais, bah, moi, je trouve que ça te va bien. Alors, on va te repasser le micro, Marcel, parce que tu vas nous parler d'un gros méchant canard.
Non, c'est pas Marcel, c'est moi.
Ah, Gilles, ah ben voilà, il me perturbe. Voilà, tu vas nous parler, en tout cas, Gilles, d'un gros méchant canard qui s'appelle le harle-bièvre, une espèce carnivore invasive aux conséquences désastreuses pour nos milieux aquatiques. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est un harle-bièvre ?
Alors, c'est vrai que c'est un nom un peu bizarre. Et quand on dit aux gens, on est envahi par les harle-bièvres, ils ne savent pas si c'est une souris. Enfin bref, effectivement, c'est un oiseau qui ressemble de près ou de loin à un cormoran, avec une taille beaucoup plus petite. Ça serait plutôt proche du canard quand on le voit sur l'eau.
Entre le cormoran et le canard, du coup,
ouais, on va dire, oui. Ça dépend de... Il y en a plusieurs tailles, mais bon, j'en ai vu des très gros de 50 cm. J'en ai vu des qui font à peu près 40. Et en ce moment, ils sont en train de nicher. Donc, ils sont par couple. On peut les distinguer parce qu'ils ont des couleurs un peu différentes. Bon, la femelle et le mâle sont un peu différents. On peut pas les faire voir, là, ici. Mais il y en a qui est marron, un peu marron, l'autre qui a une tête noire. Mais bon, on voit bien que c'est un couple et qu'il est en train de nicher. Alors bon, on en a vu au début, on ne s'inquiétait pas trop. On voyait quelques spécimens par-ci, par-là. Depuis quelques années, on essaye de tirer un peu la sonnette d'alarme en disant qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, qu'est-ce qu'il fait.
Il mange des poissons, en tout cas.
Comment ?
Qu'est-ce qu'il fait ? Il mange des poissons.
Ben, ça, c'est certain. Et il consomme une certaine quantité de poissons. Alors bon, on va dire, mais c'est normal. Hein, c'est un oiseau, c'est un prédateur, c'est sa nourriture. C'est parfait, quoi, tout va bien. Seulement, le problème, c'est que c'est un oiseau qui est protégé totalement. Que c'est un oiseau qui a été, à première vue, importé des pays scandinaves et dont on a fait... on va pas dire, qu'on a mis en place sur l'aimant en 1985 et qui se reproduit à la vitesse du lapin, j'exagère à peine. Donc ce qui fait que cette année particulièrement, ben, on en voit un peu partout, sur les rétents, sur le guémor, le guévif.
Une cinquantaine de couples. Hein,
à peu près, oui, c'est ce qu'on a ce qu'on, grosso modo répertorié.
Une centaine d'individus, sans compter les petits.
Voilà, on en voit quelques-uns qui se promènent avec leur progéniture, comme des canards. Donc on fait facilement la confusion quand on les voit sur l'eau. Et si on ne sait pas ce que c'est, donc ça a un bec crochu, la différence elle est surtout là. Ça a des pattes palmées, donc ça nage très vite, un peu comme un cormoran. Ça nage sous l'eau, ça plonge. Ça poursuit les poissons qui peuvent se cacher nulle part, d'ailleurs, parce qu'ils les poursuivent partout, jusque dans les racines ou dans les moindres recoins. Pour nourrir leur progéniture, ben, ils se mettent sur les véronnières. Ce qu'on appelle les véronnières, c'est les rassemblements des vérons qui sont la nourriture de base de la truite. Ils se mettent vers la fraie de l'année, à savoir les truitelles, pour nourrir leurs petits. Et donc on en a vu, c'est pas une invention, on les a vus avec des poissons de 30 cm dans la gueule. D'autres avaient, j'en ai vu un vers le pont du curé qui avait une truite arc-en-ciel, heureusement c'est moins grave, bref, entre guillemets, mais avec une truite de 50 cm en train de la finir sur un rocher. C'est un gros mâle, celui-là.
Alors, moi, je prends un extrait d'article que j'ai sous les yeux qui est assez éclairant, d'autant que ça va parler pour le guillet. Le harle, comme le cormoran, a la capacité de nettoyer un secteur puis de le déserter pour en chercher un nouveau. Pire, il consomme toutes les classes d'âge de proie, des juvéniles aux géniteurs, Dès lors, il n'y a rien d'étonnant à voir s'effondrer les effectifs de martins pêcheurs ou de ne pas observer le retour de la loutre. La biomasse disponible n'est pas illimitée et tout ce qui est consommé par les harles et cormorans ne profite plus aux espèces autochtones. À l'heure de la reconquête de nos rivières par certaines espèces emblématiques qui avaient pratiquement disparu, on pense à la loutre et au castor, de la labellisation des cours d'eau en site rivière sauvage, on est en plein dedans, et de leur gestion patrimoniale, on est aussi dedans, du travail pour la reconquête de la continuité écologique, la présence, voire la promotion d'une espèce exogène comme le harle nous semble complètement illogique. La LPO elle-même estime que les populations de martins pêcheurs dans l'Ain sont médiocres. Comment peut-il en être autrement quand les ruisseaux où les martins pêcheurs pullulaient il y a encore quelques années, comme le Véron, riche en petites proies, sont devenus de véritables déserts piscicoles depuis l'installation des harles?
Ouais, eh ben voilà, ça éclaire. On a pris ça d'un peu loin en se disant bon, en fait, il y a 4 ou 5 départements concernés vraiment en ce moment, l'Ain, l'Isère, le Rhône, la Savoie. Mais petit à petit, ben, quand il n'aura plus rien à manger ici, il ira ailleurs. Donc,
il migrera ailleurs, il n'y a pas de frontière, ouais. Hein, oui, pour lui,
toutes
oui,
les, bien sûr. Toutes les sociétés de pêche sont concernées par cet oiseau. Maintenant, on comprend bien que ça peut choquer certains, dire qu'on ne veut pas exterminer un oiseau, on ne veut pas l'exterminer. Et puis quand on parle de réguler, là on a des voix qui sont un peu divergentes. On dit qu'ils veulent assassiner nos oiseaux, etc., etc. Mais bon, est-ce que quand je parle du frelon asiatique, on réagit de la même façon ou est-ce qu'on, quand on parle de la pyrale du buis, les gens réagissent? Je ne sais pas. Bon, est-ce qu'il faut comparer? J'en sais rien non plus. En revanche, je pense que ça va devenir un problème crucial dans les années à venir. Donc, on a les pollutions, le manque d'eau, la sécheresse.
L'invasion des harles.
Maintenant, ce phénomène-là, à quoi ça sert que du gros des carcasses,
c'est tout à fait ça.
Non, mais c'est certain. On va mettre des frayères, ouais, de reproduction de la truite. Si on les protège pas avec des filets, etc. Ou alors, on peut mettre aussi des ombrets petits dans les zones non peuplées sur le bord du gué. À quoi ça sert s'ils sont bouffés dans la semaine qui suit ou dans l'année qui suit? Par une population d'oiseaux qui n'ont rien à faire ici, je le répète encore. Il y a moins de cormorants, j'ai vu moins de cormorants, j'en ai vu 2 ou 3, peut-être que l'un chasse l'autre. En tout cas, les canards, c'est pas leurs copains. Hein.
Ah ouais.
Je les ai vus se battre entre eux, ben sûrement pour des nichés ou parce qu'ils avaient peur pour leurs petits, je sais pas, mais les colverts sont pas très contents de les voir arriver non plus. Hein.
Ok. Alors, par rapport à ce phénomène, on constate une montée au créneau des adhérents de la PPMA, hein, une mobilisation qui a du mal à gagner l'ensemble des APPMA et des fédérations, parce que, comme vous le disiez très justement, ces harles ne sont pas encore présents sur tout le territoire. Mais enfin, comme vous le disiez aussi très justement, quand ils auront fini de manger à un endroit, ils migreront vers un autre, et tout le monde, à court ou moyen terme, sera concerné. Alors, Marcel a eu l'occasion d'écrire un courrier sur son inquiétude par rapport à ce phénomène à la Fédération de pêche de l'Ain.
De l'Ain, oui.
Voilà. Et cette dernière a répondu effectivement qu'elle relevait des constats alarmants sur le sujet, avec un sentiment d'invasion et de menace par rapport à l'activité de pêche de loisirs.
Hein ? Donc pêche de loisirs qui nous concerne, qui concerne nos élus, qui concerne les offices de tourisme, parce que depuis à peu près 15 ans, on a fait énormément de travaux sur le gué pour assurer la continuité écologique. Donc continuité écologique, ça veut dire, le libre passage pour les poissons, pour la montaison ou la descente, comme pour les sédiments. C'est des millions qui ont été dépensés. Et là, ce qui s'est passé, c'est que l'année passée, avec le premier confinement, cet oiseau a pu se reproduire. Hein. Le premier confinement, tout le monde était interdit. Les gardes ne pouvaient pas faire leur tournée au bord de l'eau. Voilà. Personne ne sortait. Donc effectivement, ça a profité à la nature. Mais dans la nature, il y a des choses qui sont bonnes et il y a des choses qui sont moins bonnes. Et on peut dire que le harle-bièvre est moins bon pour nous. Voilà. Donc on ne peut pas laisser proliférer de façon exponentielle cet oiseau. Hein, parce qu'en fait, il agit comme des commandos. Il se déplace de trou en trou. Il nettoie tous les trous. de tout ce qui vit, parce qu'il s'attaque aux couleuvres, il s'attaque aux batraciens, il s'attaque à tout ce qui vit, il s'attaque aussi aux insectes aquatiques, et on ne peut pas laisser... Voilà, il faut... C'est comme tout, c'est un oiseau qui est introduit de façon artificielle, comme l'a dit si bien dit Gilles. Ben, c'est à chaque fois qu'on s'aperçoit qu'à chaque fois que l'homme intervient pour essayer de créer un équilibre, eh ben c'est toujours le déséquilibre qui se crée. Voilà, ça c'est un petit peu, c'est angoissant. C'est pour ça que j'ai commencé en disant que j'étais angoissé, j'étais inquiet. Le président de la PPMA que je suis est inquiet sur l'avenir des truites et des ombres qui popent nos rivières. Voilà, c'est pour ça. Gilles, si tu as quelque chose à dire.
Non, mais c'est sûr que la main de l'homme est toujours néfaste dès qu'elle intervient dans un milieu quelconque. À partir du moment où le milieu est laissé en l'état, il se refait naturellement. Maintenant, dès que la main intervient pour n'importe quoi, ça crée des problèmes, ça crée des différences. On enlève des prédateurs à certains animaux. Je pensais aux renards, là, je vais me faire des chasseurs comme copains. Mais tant qu'il y avait des renards, on voyait détruire des mulots, des choses comme ça. La nature se faisait toute seule, se régulait elle-même. La main de l'homme intervient là-dedans et c'est jamais bon. Dans une prédation ou dans un apport, hein. Les deux cas sont...
Quel que soit le sens.
N'importe quel sens.
En tout cas, quand il n'est pas éclairé, il n'est pas bon. Alors, du coup, les solutions... On sait qu'il y a le soutien d'Hervé Bonzi, de la Fédération...
Il y a le soutien, alors donc ça va remonter jusqu'à nous.
Oui. Oui, tu disais, Marcel. Oui, non, mais c'est vrai qu'on a le soutien de la... On a reçu le soutien de la Fédération de l'Isère. Au départ, Hervé Bonzi ne comprenait... Enfin, ça connaissait le problème, mais j'ai l'impression que... la Fédé était beaucoup moins concernée par le phénomène là-bas et que ça n'avait pas atteint cette ampleur-là. Maintenant, cette année, il a repris le flambeau, si je puis dire, et là, je pense qu'ils en sont conscients à la Fédé de l'Isère.
De par toutes les informations que nous, notre APPMA, a fait remonter à la Fédération de l'Isère, on n'est pas la seule APPMA à faire remonter ce type d'informations. Et en fait, toutes les fédérations, en fait, toutes les APPMA qui sont concernées font remonter l'information.
Oui, et donc ça remonte aussi par les fédérations et
voilà.
Au niveau national.
Donc après, ça remonte au niveau des directions départementales du territoire, ça remonte à la Fédération nationale. Donc il y a un début de prise de conscience, parce qu'on peut appeler ça un fléau. Hein, parce que le Harlebiev, c'est une machine de guerre. Il est capable de descendre à 10 mètres de profondeur, de nager à plusieurs mètres secondes. Moi, je l'ai vu faire. Il tourne autour des rochers, il plonge, mais à une vitesse... C'est comme un écureuil qui mange une pomme de pin. Hein, ça se fait en quelques fractions de secondes. Ça dépasse l'entendement. Cet oiseau, il a toutes les qualités requises pour nous vider totalement nos rivières.
Ouais, c'est un pêcheur exceptionnel.
Ouais,
et meilleur que nous.
son bec, les dents sont... C'est
un bec crochu.
Comme les dents des brochets, elles sont tournées sur l'intérieur. Et c'est, je veux dire... Un poisson
c'est
qui
un oiseau carnivore.
C'est particulier.
Hein, ouais.
Voilà, tout à fait. Voilà, donc il faut. On n'est pas là pour, comme dit Gilles, pour éradiquer. On est là pour essayer de trouver un équilibre entre nos poissons, nos truites, nos ombres et la vie du Harlebiev. Voilà. Pour établir un équilibre.
Mais alors, qu'est-ce qu'on envisage justement comme solution? Discuter avec la LPO
Discuter avec ces personnes.
Peut être difficile. Voilà. Parce que je comprends qu'ils aimeraient le protéger et qu'ils voudraient le protéger. C'est leur but. Comme nous, on protège les poissons, eux veulent protéger les oiseaux. Maintenant, il faut qu'on trouve un terrain d'entente. Mmh. Il est possible de trouver un terrain d'entente, je pense, sur un oiseau comme ça. Surtout qu'il n'est pas venu tout seul. Voilà.
Ouais, ce qu'il faut, c'est engager une discussion pour essayer de trouver une solution. Tant que cette discussion ne sera pas engagée, ben voilà, on va se buter chacun. Chacun va donner ses positions et on n'arrivera pas à un consensus. Et ce qu'on veut, nous, en tant que pêcheurs, c'est arriver à trouver une solution dans la discussion.
J'en ai une de solution. Ah. On va le pêcher avec un hameçon, avec Ardillon. Ah.
Le débat est clos. On se refait une petite pause pour en discuter hors micro de notre côté avec Georges Brassens, la mauvaise herbe après la mauvaise réputation.
Quand le jour de gloire est arrivé, comme tous les autres étaient crevés, moi seul connu le déshonneur.
de ne pas être mort au champ d'honneur. Je suis la mauvaise herbe, brave Jean, c'est pas moi qu'on rumine et c'est pas moi qu'on met en gerbe. La mort faucha les autres, brave Jean, et me fit grâce à moi, c'est immoral et c'est comme ça. La 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 la. Et je me demande pourquoi, bon Dieu, ça vous dérange que je vive un peu. Et je me demande pourquoi, bon Dieu, ça vous dérange que je vive un peu. La fille à tout le monde a bon cœur, elle me donne au petit bonheur les petits bouts de sa peau bien cachés que les autres n'ont pas touché. Je suis la mauvaise herbe, brave Jean, c'est pas moi qu'on rumine et c'est pas moi qu'on met en gerbe. Elle se vante aux autres, brave Jean, elle se donne à moi, c'est immoral et c'est comme ça. La 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 la. Et je me demande pourquoi, bon Dieu, ça vous dérange qu'on m'aime un peu. Et je me demande pourquoi, bon Dieu, ça vous dérange qu'on m'aime un peu. Les hommes sont faits, nous dit-on, pour vivre en bande comme les moutons. Moi je vis seul et c'est pas demain que je suivrai leur droit chemin. Je suis la mauvaise herbe, brave Jean, c'est pas moi qu'on rumine et c'est pas moi qu'on met en gerbe. Je suis la mauvaise herbe, brave Jean, je pousse en liberté dans les jardins mal fréquentés. La 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 la. Et je me demande pourquoi, bon Dieu, ça vous dérange que je vive un peu. Et je me demande pourquoi, bon Dieu, ça vous dérange que je vive un peu.
Eh bien, c'était une chanson très à propos concernant les Arles-Bièvres dont nous venons d'évoquer le sujet avec Gilles Rondeau et Marcel Guitta. On est sur la fin de cette émission des Rivières et des Hommes. Un mot de la fin, chacun ?
Oui, bah écoutez, je peux vous parler un petit peu des travaux concernant l'aménagement du seuil de Moulin Neuf.
Allez, oui, je l'avais oublié celui-là. Voilà, pardon Marcel, heureusement que tu veilles au grain.
Bon, en fait, les travaux ont... L'arasement du seuil de Moulin Neuf, il ne peut être que partiel. Hein, parce que c'est un seuil qui fait 4-5 mètres. Donc, ils vont l'araser à peu près sur 1,73 m de hauteur. Et il y a, pour éviter de trop araser le sol, il y a un canal, ce qu'on appelle un canal de contournement, qui est en fait une échelle à poisson, qui va faire 140 mètres de long. Donc, le canal de contournement a été creusé. Ça, c'est OK. Après, à partir du 11 mai... c'est impressionnant à voir. Hein. Toute la terre a été enlevée et le canal de contournement était donc, comme je viens de le dire, a été creusé. Après, ce canal de contournement va être aménagé comme on peut, avec des blocs de rochers pour que les poissons et ombres puissent monter et descendre facilement. Voilà. À partir du 11 mai, les travaux vont s'enchaîner. Donc, à partir du 11 mai, il va y avoir la démolition partielle du seuil. Donc là, nous, en tant qu'APPMA, on suit ces travaux. Je fais un petit dossier PowerPoint pour montrer l'avancement de ces travaux. Donc ils sont suivis, c'est le SIAGA hein, qui organise ces travaux avec comme maître d'ouvrage. C'est le SIAGA qui est maître d'ouvrage et c'est le maître d'œuvre, c'est le cabinet Merlin. Voilà, donc on suit ces travaux, ils avancent bien. Donc surtout, ce qu'on va s'assurer, c'est que les pêches de sauvegarde soient bien effectuées.
Alors, rappelons ce que sont les pêches de sauvegarde.
La pêche de sauvegarde, c'est simplement, avant, quand on intervient sur un cours d'eau, soit pour araser les berges, soit pour mettre des pierres, etc.
Ouais, on prend les poissons avant, on sauve les poissons.
On les sauve, on les pêche.
On les sort de l'eau, on les met dans un coin,
on les déplace.
Oui, d'accord.
Voilà. Et voilà. Et ça, donc, il va falloir bien s'assurer. Et puis, comme c'est un endroit qui, normalement, a beaucoup de poissons, donc ces pêches de sauvegarde intéressent tous nos pêcheurs.
Mais elles se font comment, ces pêches de sauvegarde ? Ce n'est pas des pêches électriques ?
Si, c'est des pêches électriques. Oui, bien sûr.
Okay.
Oui.
Très bien.
Bon, moi, je vais terminer. Là, j'ai coupé Marcel parce que je voulais absolument glisser mon dernier mot.
Allons-y.
Sinon, je vais me faire tuer par 50 000 pêcheurs. Donc, Et je vais encore dire un truc qui fâche, ben, puisque c'est mon lot, hein, entre les antispécistes, les Arles-le-Bièvre. Maintenant, je vais te parler rapidement du no-kill. Si jamais on en arrive à un stade où il est de plus en plus difficile de prendre un poisson dans le gué, que ce soit le gué mort, gué vif, enfin, à part les truites qui ont été déversées, je parle de truites sauvages, là. Je pense qu'il va falloir protéger rapidement, mais très rapidement, notre domaine. Alors, quand je parle de no-kill, tout le monde me saute dessus en disant « Ouais, ça y est, ils vont encore interdire quelque chose, ils veulent interdire, on va plus pouvoir garder de poissons, plus en manger. » Mais à partir du moment où on a 10 poissons dans une rivière, je pars du principe que si on en prélève 9, il n'en reste plus qu'un. Et que ce 1, ben, c'est mon géniteur qui va faire la nation de demain. Là. Et donc, à quoi sert d'entretenir des cours d'eau, de faire un boulot pas possible, etc., et de bosser comme des malades, parce qu'on bosse comme des malades. Même les gens, les gens ne se rendent pas compte du travail des bénévoles, du travail de Marcel, du relationnel qu'il a, tous les jours avec en liaison avec le CIAGA, avec des gens de l'OFB ou avec des gens de Biomaé pour les analyses. Si on ne protège pas ce qu'on a de plus cher, ça sert à rien. Donc y en a qui disent ah, ça y est, on nous empêche de bouffer du poiscaille. Non, on veut simplement, les gars, que vous preniez plus de poissons après. Notre boulot, c'est ça, c'est que vous arriviez à prendre plus de poissons. Si on les protège, nos géniteurs, on en aura après. Si on arrive à
vos enfants et vos petits-enfants en auront également.
Il y a des rivières, c'est prouvé dans certains domaines. Il y a des rivières comme l'Albarine, où il y avait l'Albarine dans l'Ain, il y avait une baisse de quantité de poissons à une époque, je m'en rappelle, et les usines ont été fermées, malheureusement, mais le poisson est revenu en quantité. Ils arrivent à prélever 8000 poissons par an sans nuire à la rivière. Nous, on en est encore, par certains endroits, à tolérer 6 poissons, mais alors que je défie quelqu'un de prendre un poisson, quelqu'un qui n'est pas un pêcheur professionnel, presque limite, de prendre un poisson dans le parcours du no-kill, du pont du curé. Il se prend de moins en moins de poiscailles. Donc je sais que je vais me faire des ennemis avec cette histoire de no-kill, mais bon, protégeons nos géniteurs, et puis on verra après, vous pouvez patienter 2 ans sans manger un poisson.
Oui, puis je veux dire, c'est pas comme avant où effectivement,
pour se nourrir.
Il fallait pêcher pour se nourrir. Voilà. Bien d'autres moyens
de manger
du poisson.
On a beaucoup de mal à faire passer cette idée-là. Même au niveau de la Fédé, on comprend bien que si on dit on fait du no-kill, c'est encore une interdiction, on prive de quelque chose, on prive de tout. Mais malgré tout, moi je suis persuadé que si on fait ça pendant 2 ans, 3 ans, ou des réserves, ou peu importe, enfin bref, qu'on protège par endroit, à condition de les protéger aussi contre les Arles-le-Bièvre, on verra revenir le gué comme il a été, comme je l'ai connu il y a 40 ans.
Allez, soyons utopistes, on y croit, on est obligé de rendre l'antenne. Marcel, un dernier mot.
Oui, malgré tout, on garde moral et puis on croit à ce qu'on fait. Voilà.
Allez,
ça, c'est très important.
On y croit fort. Merci, messieurs, pour votre participation active et réactive. Et à la prochaine.
À la prochaine. Merci à tous.
Au revoir à tous. Merci, Sophie. Merci, Lucas.
Oui, merci à Lucas.